Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Nous voyons aujourd'hui le nombre de malades Covid en réanimation remonter de façon préoccupante. C'est un témoin important de l'évolution de l'épidémie.
Il n'a pas prononcé le terme deuxième vague, mais c'est tout comme Olivier Véran annonce de nouvelles restrictions à Lyon et à Nice. Les bars à Marseille pourraient prochainement fermer. Le ministre de la Santé veut mettre fin à la pagaille dans les labos. Les personnes prioritaires bénéficieront de créneaux de dépistage réservés en Île-de-France. Daesh revendique l'attaque au Niger en août dernier. 8 personnes avaient été tuées, dont 6 humanitaires français. La rentrée sociale, manifestation timide, mais colère décuplée avec la multiplication des plans sociaux. Nous entendrons le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Dans ce journal également, le Tour de France. Victoire aujourd'hui du Polonais Michel Kwiatkowski. Roglic reste maillot jaune. Le foot, premier match de Coupe d'Europe pour Reims depuis 57 ans. Les Champenois affrontent en ce moment le Servette de Genève, Cyril de la Morinerie.
Et ça se passe bien pour les Rémois qui mènent 1-0 ici à Genève. Il reste 30 minutes à jouer.
Et puis encore du foot en Ligue 1. Cette fois, l'Olympique de Marseille fait face à l'AS Saint-Etienne, Stéphane Frangy.
Oui, c'est la mi-temps ici, 1-0 pour Saint-Etienne. C'est Romain Amouma qui a surpris les Marseillais dès la 6e minute de jeu.
Merci messieurs, vous intervenez dès qu'il y a un but. Le temps de demain, retour des nuages, surtout dans le sud-ouest, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle termine en baisse de 0,69% à 5039 points. Les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho à 22h20, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Pascal Demurger, le directeur général de la Maif. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il avait quelque peu disparu de la circulation, lui qui prenait la parole presque quotidiennement au plus fort de la crise. Olivier Véran a inauguré cet après-midi le point presse qu'il tiendra désormais toutes les semaines. Objectif, rendre compte aux Français de l'évolution de l'épidémie. Le ministre de la Santé a notamment annoncé que de nouvelles mesures restrictives allaient être imposées à Lyon et à Nice.
Nous avons demandé aux préfets du Rhône et des Alpes-Maritimes de proposer au gouvernement d'ici samedi les mesures qui devront être prises pour enrayer la circulation du virus et limiter son impact sur le système sanitaire. Les maires de Nice et de Lyon ont d'ailleurs déjà commencé à prendre des mesures par anticipation. Dans les territoires pour lesquels des mesures fortes ont déjà été prises, particulièrement Marseille et la Guadeloupe, si la situation sanitaire ne s'améliore pas et si le nombre d'entrées en réanimation continue à croître, il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes. Elles seront naturellement décidées au niveau local, mais je pense en particulier à la possible fermeture des bars ou à l'interdiction de rassemblement public.
Le ministre de la Santé est également revenu sur la pagaille actuellement dans les labos et leur file d'attente interminable. Nous sommes confrontés à des difficultés organisationnelles sur les tests, a reconnu Olivier Véran. Victor Delande nous a rejoint. Victor, quelles mesures ont été annoncées pour remédier à cette situation ?
Le ministre de la Santé a annoncé le déploiement de 20 nouveaux centres de dépistage en Île-de-France, dont 6 à Paris. Dans ces centres, des créneaux horaires seront réservés aux patients prioritaires. De 8h à 14h, les personnes qui ont des symptômes, les cas contacts et les personnels de santé seront reçus en priorité pour être testés. Olivier Véran a également commandé 5 millions de tests antigéniques, même technique nasopharyngée, mais des résultats beaucoup plus rapides, en 30 minutes. Enfin, la Haute Autorité de Santé doit rendre rapidement une décision sur les tests salivaires pour déterminer quels publics pourront être diagnostiqués avec cette nouvelle technique. Autant de mesures qui devraient soulager les laboratoires en ville et surtout permettre aux patients prioritaires d'obtenir leurs résultats plus vite. Mais pour les autres patients, le ministre de la Santé ne change pas de stratégie. Tout le monde peut continuer à se faire tester gratuitement, sans ordonnance. Mais le public, s'il n'est pas prioritaire, devra accepter d'attendre. Une manière d'appeler les Français à plus de civisme et de responsabilité dans la lutte contre l'épidémie.
Victor Delande, j'ajoute que le ministre de la Santé a également annoncé que le port du masque est désormais obligatoire pour les professionnels des crèches. Il ne l'était jusqu'à maintenant qu'en présence des parents. Autant de mesures, vous l'entendez, qui semblent nécessaires au regard des derniers chiffres de l'épidémie. Près de 10 600 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures. C'est un nouveau record. Des chiffres qui inquiètent l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, juge alarmant les niveaux de contamination en Europe. Le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés rentrée en mars et avril. Par ailleurs, près de 45 000 personnes ont été verbalisées pour non-respect du port du masque depuis le mois de mai. Et c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui au Sénat Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est d'ailleurs fait rappeler à l'ordre par les sénateurs pour avoir enlevé son masque.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
Dans l'actualité également ce soir, cette revendication de l'État islamique. Le groupe djihadiste affirme avoir perpétré l'assassinat le 9 août dernier au Niger de 8 personnes, dont 6 humanitaires français. Johanna Chabas.
Oui, Daesh revendique cette attaque, photo des victimes à l'appui. Les jeunes humanitaires apparaissent à genoux, encore vivants, visage couvert de sang pour certains. Les images semblent extraites d'une vidéo tournée quelques secondes avant l'exécution. C'est en tout cas comme ça que le groupe terroriste le présente. Le texte de revendication est publié dans son hebdomadaire de propagande, l'État islamique, qui parle d'une attaque éclair. Au début du mois d'août, 8 volontaires de l'ONG Acted sont au Niger, près d'une réserve de girafes. Les assaillants arrivent à moto pour les tuer. Ils étaient, selon les premiers éléments de l'enquête, préparés et attendaient le groupe d'humanitaire. Parmi les victimes, 6 jeunes Français âgés de 25 à 30 ans, assassinés avec leur guide et leur chauffeur nigérien. De nombreux groupes terroristes circulent dans la région. C'était donc jusqu'à présent difficile d'identifier les responsables de l'attaque. Dernière précision, dans son texte de revendication, l'État islamique ne parle jamais d'humanitaire, seulement de citoyens croisés de la France.
Johanna Chabas, le gouvernement réunira lundi à Béthune les élus et les syndicats de Bridgestone, le numéro 1 mondial du pneumatique a annoncé hier, on vous en parlait, vouloir fermer cette usine qui emploie 863 salariés. C'est dans ce contexte que s'est effectuée aujourd'hui la rentrée sociale. Plusieurs syndicats, dont la CGT, ont lancé un appel à la grève et à des manifestations un peu partout en France. Appel peu suivi, notamment en raison des conditions sanitaires. Environ 3000 personnes ont défilé ce matin à Marseille, quelques milliers également cet après-midi à Paris. Invité du 18h20 d'Europe 1, le secrétaire général de la CGT, il est revenu sur la fermeture de l'usine Bridgestone à Béthune. Philippe Martinez attend des actes forts de la part du gouvernement.
On ne demande plus des paroles. Des paroles fermes du gouvernement, on en a déjà eu sur, je ne vais pas vous citer toutes les entreprises qui ont donné lieu à de belles paroles du gouvernement. Maintenant, on attend des actes. Et c'est pourquoi cette journée de mobilisation a été importante, parce que le plan de relance proposé par le gouvernement, est-ce que c'est des nouvelles aides au gouvernement comme ça a été fait pour Bridgestone pour après en arriver là, ou est-ce que c'est des aides conditionnées avec demande d'engagement des entreprises, de non seulement de maintenir l'emploi, mais de développer, d'investir, parce que c'est le problème qui est posé à Bridgestone.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui était ce soir l'invité du 18-20 d'Europe 1 avec Julien Bugier. Le groupe Rover, spécialisé dans le négoce de chaussures, envisage de supprimer 200 emplois. Les 5 sites français de Fougères, Arc, Malville, Sèvres et Cholet sont concernés, précise la direction. Au total, depuis mars, ce sont 394 plans de sauvegarde de l'emploi qui ont été déposés pour 57 000 ruptures de contrats de travail envisagées. C'est 3 fois plus qu'en 2019, explique le ministère de l'Économie. AXA, condamné à indemniser 5 restaurateurs pour leur perte d'exploitation due au confinement. Décision aujourd'hui du tribunal de commerce de Paris. L'assureur a décidé de faire appel. Il est un peu cher, ce Gewürztraminer. Vous vous êtes peut-être déjà fait cette réflexion en contemplant une bouteille de vin alsacien. Alors soit c'était un très bon cru, tant mieux pour vous, soit vous vous êtes fait avoir comme des millions de Français. L'autorité de la concurrence vient en effet de sanctionner 3 organisations professionnelles des vins d'Alsace. Il aurait reproché une entente sur le prix du raisin visant à augmenter celui du vin. Tout ça, Arthur Mbaché, sur le dos des consommateurs.
Et pendant des années, au moins depuis 2008 pour le prix du raisin, 1980 pour le vin en vrac. Voilà donc le cartel du Riesling ou du Gewürztraminer. Tous les cépages du coin sont concernés. Dans la décision de ce jeudi, vous avez des extraits de réunions de viticulteurs. Par exemple, 28 août 2012, c'est pas admissible de trouver des vins d'Alsace à 2 ou 3 euros. Faut qu'on arrête de se prendre les marchés entre nous. Ou bien la meilleure communication, les meilleurs produits, ça suffit pas si on se fixe pas comme objectif de demander un prix correct. En clair, entendons-nous entre concurrents sur les prix. Commentaire de l'autorité de la concurrence, ça relève des pratiques les plus graves en droit national et européen. Donc, des amendes jusqu'à 350 000 euros pour le CIVA, le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. J'ai parlé ce soir à plusieurs de ses dirigeants ou anciens dirigeants. Ils dénoncent une sanction inacceptable, sévère, abusive. Premier argument, on n'est pas un marché comme les autres, disent-ils, on ne vend pas des lave-vaisselles. Deuxièmement, depuis 40 ans, on a un représentant de l'administration à toutes nos réunions. Il ne nous a jamais demandé de cesser ces pratiques, qui n'étaient pas du tout secrètes. D'ailleurs, les viticulteurs ont la possibilité de faire un recours devant la Cour d'appel de Paris.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. À l'étranger, Donald Trump visé par une nouvelle accusation d'agression sexuelle. Dans une interview au quotidien britannique The Guardian, l'ancienne mannequin Amy Doris affirme avoir été embrassée et touchée sans son consentement. Les faits se seraient produits en 1997 à l'US Open de tennis. Les avocats du président américain rejettent ces accusations.
Europe 1. Le 22-22-30.
On ouvre notre page sport avec, pour commencer, le Tour de France. 18e étape aujourd'hui entre Méribel et La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, qui s'est conclue avec une jolie image, Marguerite Lefebvre, deux coureurs bras-dessus sur la ligne d'arrivée.
Oui, image assez surprenante hein, tout à l'heure. Deux coureurs de l'équipe Ineos, deux coéquipiers qui se sont entendus dans le final et qui sont donc arrivés ensemble à La Roche-sur-Foron, tout sourire, main dans la main. Alors comme il faut bien un vainqueur, c'est Michał Kwiatkowski, le Polonais, qui remporte officiellement l'étape. Son vélo est arrivé juste devant celui de l'équatorien Richard Carapaz qui lui récupère le maillot à poids de meilleur grimpeur. Une belle revanche pour les deux hommes qui étaient venus avec d'autres ambitions hein, sur ce tour. Ils devaient aider leur leader Egan Bernal à remporter un deuxième Tour de France. Mais après l'abandon du Colombien, l'équipe s'est donc donné ce nouvel objectif, cette victoire se doubler dans la dernière étape de montagne dans les Alpes. Au classement général, les favoris, eux, se sont un peu attaqués tout à l'heure, notamment dans la terrible montée vers le plateau des Glières, classé hors catégorie. Il y a eu des attaques, mais pas de changement sur le podium. Primoz Roglic est toujours maillot jaune devant son jeune compatriote Tadej Pogacar.
Marguerite Lefebvre qui nous fait vivre ce Tour de France aux côtés d'Axel May. En tennis, le tournoi de Roland-Garros qui doit débuter dans 10 jours accueillera moins de spectateurs que prévu. 5 000 quotidiennement au lieu des 11 500 annoncés précédemment. C'est ce qu'annonce ce soir la préfecture de police de Paris. Meilleure performance de tous les temps en plein air pour Armand Duplantis. Le perchiste suédois a franchi ce soir une barre à 6,15 m. À 20 ans seulement, il détient également le record en salle à 6,18 m. Allez, retour au plancher des vaches avec le foot. Match en retard ce soir de la première journée de Ligue 1. L'OM affronte la Saint-Étienne, Stéphane Frangy. Et pour l'instant, Marseille est dominé.
Oui, assez logiquement au vu de la première période, les Stéphanois qui ont pris les devants assez tôt dans cette partie, 6e minute, et c'est Romain Amouma qui reprend un centre venu du ras de terre, et il vient tromper Steve Mandanda. Les Stéphanois qui auraient pu vraiment alourdir le score, ils ont eu plusieurs occasions, de très nombreux cafouillages des Marseillais. Attention, on va suivre cette occasion, et l'égalisation, non, là, pas le poteau qui est trouvé par les Marseillais. Marléaké sur cette reprise, les Marseillais qui sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période, ils ont tellement été à côté de leur pompe en première période. Le score, je vous le disais, aurait pu être plus lourd, mais il y a eu deux changements à la mi-temps et ils reviennent dans de meilleures dispositions. Mais ça fait toujours 1-0 pour les Stéphanois.
Merci Stéphane Frangy. On prend maintenant la direction de la Suisse, retrouver Cyril de la Morinerie. Deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa entre le Stade de Reims et le Servette de Genève. Cyril, oui. Toujours 1-0 pour les Rémois ?
Ils tiennent les Rémois, il reste 20 minutes à jouer, le Stade de Reims mène donc 1-0 avec ce but marqué à la 4e minute par Berisha, un centre de Kuteza, et c'est Berisha donc qui a repris la nouvelle recrue rémoise pour marquer son premier but en match officiel. Et pour l'instant, eh bien, peut-être entrouvrir la porte d'un troisième tour. Alors c'est vrai que depuis ce but, les Rémois n'ont pas toujours été très tranchants, plutôt mis sur le reculoir par les joueurs de Genève qui essayent tant bien que mal de se procurer des occasions, ils en ont, c'est vrai, mais pour l'instant, avec Rajkovic, avec ce gardien de but du Stade de Reims, mais aussi une défense bien regroupée, ça tient pour l'équipe du Stade de Reims, donc qui mène 1-0 ici à Genève, à 20 minutes du terme de cette rencontre.
Merci Cyril de la Morinerie en direct de Genève. Pour Europe 1, on passe à la météo de demain, Anissa Haddadi. Les nuages arrivent.
Oui, ils arrivent par l'ouest. Demain, ces nuages juliens, avec dès demain matin sur les Pyrénées et le Pays Basque, un ciel très couvert, avec des averses des Pays de la Loire jusqu'au Languedoc-Roussillon, en passant par la Charente, le Limousin, l'Aquitaine et l'Occitanie. Et bien dans toutes ces régions, vous allez le sentir demain matin, le ciel est bien plus voilé. Sur le reste de la France, bien là, le soleil brille dès le début de la journée. Dans l'après-midi, les nuages présents le matin dans le sud-ouest vont avancer. Et c'est du Cotentin aux Bouches-du-Rhône que là, les nuages s'installent. Le ciel sera un petit peu plus couvert. Et au sud de la Garonne, alors là, ça se complique. Au sud de la Garonne et sur le long de la façade atlantique, les averses sont bien plus nombreuses demain après-midi. Des averses orageuses accompagnées de fortes rafales de vent et de grêle. Donc prudence dans le sud-ouest demain après-midi. Sur le quart nord-est, là, il fait vraiment très beau demain. Sur le golfe du Lion et les côtes du Nord, eh bien là, c'est le vent qui souffle demain après-midi. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 10 à 21 degrés. Et puis dans l'après-midi, il fait plus frais sur les côtes de la Manche avec 20 à 23 degrés, 25 à 30 degrés sur la moitié nord, 30 degrés à Paris et 30 à 35 degrés sur la moitié sud, 30 à Marseille, 32 à Lyon et Périgueux, 33 à Montauban et 34 à Limoges.
Merci Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h16 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, c'est l'heure de Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire. On appuie sur le bouton, c'est encore mieux.
Bonsoir.
Du coup, Wall Street clôture en baisse ce soir alors que la reprise économique reste fragile.
Oui, le Dow Jones perd 0,47%, 27 901 points. Le Nasdaq, lui, lâche encore 1,27%, 10 910 points. Du rouge, alors que le patron de la Fed, Jerome Powell, s'est montré prudent hier au sujet de la reprise économique après le choc provoqué par le coronavirus. Et cette prudence, elle n'a pas rassuré les marchés. Du côté des valeurs, les grandes techno piquent encore du nez, à l'instar d'Apple qui perd 1,6%, mais aussi Facebook, moins 3,2%, et Amazon, moins 2,2%. Certaines valeurs industrielles sont à l'inverse en forme, comme le fabricant d'engins de chantier Caterpillar, en hausse de 1,7%. Et puis le pétrole progresse également. Les pays de l'OPEP et leurs alliés ont décidé de prolonger jusqu'à la fin décembre les engagements en matière de baisse de production pour soutenir les cours. Le WTI bondit donc de 2,2% à 41 dollars le baril.
À Paris, le CAC 40 aussi clôture dans le rouge.
Avec un repli de 0,69% pour le CAC 40 qui termine à 5039 points. La chute aujourd'hui, elle est pour Unibail, Rodamco, Westfield en baisse de 10%. Le groupe d'immobilier commercial a annoncé un plan qui doit lui permettre de dégager au moins 9 milliards d'euros pour renforcer son bilan. À la clé, il y a une augmentation de capital de 3,5 milliards. Sanctions donc très lourdes pour le groupe, mais aussi pour son concurrent Klépierre qui perd 8% ce soir.
Le conseil d'administration d'Engie s'est réuni aujourd'hui.
Et il estime que l'offre formulée par Veolia pour racheter ses parts au capital de Suez n'est pas acceptable en l'état. Il demande donc à Veolia de l'améliorer. Veolia et Suez terminent stable ce soir. Engie de son côté perd 1,2%. Et puis c'est du rouge aussi pour Peugeot et pour Renault. Les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européennes ont chuté de près de 18% le mois dernier. Clôture en baisse ce soir pour les marchés européens. Londres perd 0,5%, Francfort moins 0,4%, Milan et Amsterdam moins 1,1%, Madrid perd 0,3%. Le CAC 40 lui recule de 0,7% à 5039 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain. 22h19 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Pascal Demurger.
Bonsoir Pascal Demurger.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de la MAIF, un groupe bien connu notamment d'assurance. Alors on a eu envie de vous avoir en ligne aujourd'hui parce que vous avez annoncé ce matin une petite révolution quand même. Vous gelez les tarifs pour l'assurance auto pour l'an prochain. Pourquoi donc vous prenez cette décision ?
Alors c'est presque une seconde révolution cette année, hein, puisque nous avions au mois d'avril dernier, en plein confinement, remboursé nos assurés du montant de la prime auto correspondant à la période de confinement, considérant qu'ils n'utilisaient pas leur véhicule. Et que,
c'était 100 millions d'euros que vous aviez remboursé à l'époque.
C'était 100 millions d'euros que nous avions remboursé absolument, ce qui correspond à peu près au montant de notre résultat annuel. Hein. Là, nous avons décidé de prolonger cet effort et ce geste en gelant les tarifs auto pour 2021 parce qu'on considère que nous rentrons, on le sait bien, dans une crise sociale qui risque d'être dure, d'être longue, d'être profonde. Et je crois que notre devoir de solidarité à l'égard de nos sociétaires, c'était de faire cet effort. Ça veut dire que ça va peser sur les résultats de la mutuelle, naturellement. Mais je crois que c'était bien de marquer cette solidarité.
Alors c'est bien évidemment un effort notable. Malgré tout, les tarifs, selon les premières indications que l'on avait, ne devaient pas augmenter très fortement l'année prochaine sur l'auto.
Alors je pense qu'il y aura aura une certaine modération tarifaire. On s'attend malgré tout à des hausses relativement généralisées des tarifs auto, dans la mesure où il y a une très forte inflation dans le secteur. Le coût de la réparation automobile augmente très fortement, de l'ordre de 6% en 2020, parce que les pièces détachées sont de plus en plus chères, les véhicules sont de plus en plus sophistiqués. Le coût de la manœuvre, le coût également des protocoles sanitaires, tout cela renchérit le prix des réparations.
Mais d'après vous, ça aurait dû augmenter de combien, du coup, si vous aviez dû augmenter les tarifs ?
Alors, si nous avions dû augmenter les tarifs, on n'aurait évidemment pas reporté la totalité de la hausse du coût moyen, mais on les aurait augmentés de l'ordre de 2%. Ça veut dire que pour nous, c'est un manque à gagner annuel, puisque forcément c'est pluriannuel, c'est un manque à gagner annuel de l'ordre de 30 millions d'euros.
Et pour moi, pour mon assurance, je gagne combien grâce à ça, d'après vous ?
Alors, ça va dépendre de votre véhicule, de votre bonus-malus, bien sûr. Ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Chaque année, en moyenne, c'est pour chacun de nos sociétaires sans doute un gain d'une vingtaine d'euros à peu près.
Vous faites ça parce que les assureurs ont été très critiqués pendant cette crise. Il faut se rattraper maintenant.
Alors, moi, je me sens assez peu concerné par ces critiques, dans la mesure où, au contraire, le geste de la Maïf a été très fortement salué. Donc, ça n'est pas un sujet de rattrapage d'image. C'est vraiment.
Mais c'est vrai que la profession, au global, a été très critiquée, et y compris par les pouvoirs publics, pour une certaine passivité. C'est le secteur, au global, qui a été très attaqué pendant cette crise.
Oui, vous avez raison, le secteur a été attaqué, parfois justement, parfois de manière injuste et excessive. Encore une fois, je crois que nous avons pleinement assumé notre responsabilité d'assureur. Je pense que un assureur, quel est son rôle social finalement ? Quelle est sa mission ? C'est au fond de compenser les conséquences des sinistres qui peuvent arriver aux assurés, que ce soit des sinistres individuels ou collectifs, une tempête, une catastrophe naturelle, une inondation, que sais-je, ou un virus. Et donc nous avons, je crois, assumé cette responsabilité et on continue de le faire avec ce gel des tarifs auto.
Vous dites que vous le faites parce que vous attendez à une crise sociale importante. Quand on est assureur, on est une bonne vigie quand même de ce qui se passe, notamment quand on travaille un petit peu sur le monde de l'entreprise, un marché que vous allez essayer de développer par ailleurs à la Maïf. Qu'est-ce qui vous remonte justement de l'ambiance actuelle ?
Je pense que vous êtes aussi une bonne vigie et que vous sentez bien quand même à la fois une morosité ambiante relativement forte et puis surtout une peur. L'anticipation de licenciement, d'une montée du chômage et donc une crainte très forte. On le voit d'ailleurs dans les niveaux d'épargne relativement élevés, d'épargne de précaution chez les Français. Tout le monde appréhende un petit peu les mois à venir.
Vous êtes une entreprise qui s'est aussi adaptée à la période assez exceptionnelle puisque là encore vous avez été assez précurseur. Dès le 17 juillet, je crois, vous avez annoncé une généralisation du télétravail pour que tous les collaborateurs qui le souhaitent, à hauteur de la moitié de leur temps, de 50% du temps, puissent être en télétravail. C'est assez massif comme décision. Les gens sont plutôt du coup en télétravail ou vous avez l'impression que pour maintenir le lien social, ils ont plutôt besoin d'être sur place ?
Alors il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer évidemment la crise sanitaire et la manière dont on maintient l'activité avec y compris un peu de télétravail pour des raisons sanitaires. Et puis ensuite, hors crise sanitaire, demain, lorsque tout ça sera résolu, l'organisation d'un télétravail sur la base du volontariat des salariés. Très généralement, les salariés sont favorables au fait de pouvoir bénéficier d'un peu de télétravail. À hauteur de la moitié, typiquement, ça paraît un quota raisonnable. En revanche, tout le monde est très attaché, et moi le premier, à ce que, bien sûr, on maintienne une vie sociale très, très forte au sein de l'entreprise. Une entreprise, c'est d'abord une collectivité humaine, pour moi, d'abord une communauté humaine. Et donc, il faut maintenir cette présence et cette vie sociale par un minimum de présence sur site. On essaye de trouver ce bon équilibre. Et encore une fois, le télétravail pour nous, c'est vraiment une proposition que l'on met à la disposition des salariés qui le souhaitent. Ça n'est évidemment pas une obligation, ça n'est pas dans une perspective de réaliser des économies, c'est pour permettre à chacun de trouver encore plus un meilleur épanouissement dans son travail.
Eh bien, merci beaucoup Pascal Demurger, le directeur général de la MAIF, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. 22h27 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. La SNCF veut réinventer le TGV, titre Les Échos, qui ont interviewé le patron de la compagnie ferroviaire. Près d'un an après son arrivée, Jean-Pierre Farandou dessine son projet pour la SNCF de 2030. Et ça va passer par un nouveau modèle pour le TGV, nouveau tarif, rames modulables, numérique. Le chantier est ouvert. Collèges et lycées, tenues correctes, contestées, titre de son côté Libération. Collégiennes et lycées se mobilisent depuis lundi pour revendiquer le droit de porter jupe, crop top et décolleté. En cause, le flou juridique permettant à certains établissements d'interdire des tenues jugées provocantes. Une autopsie à la une du Figaro, celle de Bridgestone, autopsie d'un désastre industriel. La fermeture de l'usine de pneumatiques de Béthune marque, selon le quotidien, une nouvelle étape dans le déclin européen de cette industrie face à la concurrence asiatique. On termine avec l'opinion. Seconde vague, seconde échec, titre le quotidien libéral qui développe pour les masques le pouvoir à nier la pénurie. Pour les tests, il a élargi le public visé, mais sans se donner les moyens de procéder au dépistage dans de bonnes conditions. Allez, comme promis, on termine avec le foot, direction Genève pour commencer, où le Stade de Reims, pour son retour en Europe, affronte le Servette de Genève. Cyril Damorinerie.
On commence un peu à stresser parce qu'il reste 4 minutes à jouer. Les Rémois mènent toujours 1-0. Ils ne sont pas loin d'aller au troisième tour de la Ligue Europa. Mais Sikiro était avec moi et il dirait bah attention, attention, rien n'est joué jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est vrai que les joueurs du Servette multiplient les... les occasions, ils en ont eu, mais en tout cas les offensives près de la surface de réparation rémoise qui pour l'instant tient le coup avec Rajkovic, avec cette défense bien resserrée. Mais c'est vrai qu'on a eu tout au long de cette rencontre plusieurs occasions avec l'ancien rémois Greg John Kay, le gardien rémois s'est interposé, il y a eu plusieurs coups francs du côté de cette équipe de Genève avec toujours Rajkovic, le gardien rémois qui s'est interposé. Donc pour le moment, les Rémois, c'est pas le match du siècle ici, mais c'est un match historique évidemment, puisque ça fait 57 ans que les Rémois n'avaient pas joué un match de Coupe d'Europe. Mais ça se passe plutôt bien pour les joueurs de David Guillon, puisqu'ils mènent 1-0 après ce but de Berisha. Il reste 3 minutes ici au Servette dans le temps réglementaire pour, pourquoi pas, une qualification rémoise.
Reprenez votre respiration, Cyril de la Morinerie. Merci à vous. On prend maintenant la direction du stade Vélodrome où l'OM affronte l'AS Saint-Etienne, Stéphane Frangy.
Oui, ça fait 1-0 pour Saint-Etienne depuis la 6e minute de cette partie. On joue la 71e. Les Marseillais qui étaient complètement à côté de la plaque en première période, ils auraient même pu subir un score plus lourd tellement ils ont fait des cadeaux aux Stéphanois qui n'ont pas su en profiter. Ils n'ont pas été, les Marseillais, assez réalistes sur leur situation de contre. Ils sont revenus depuis cette seconde période avec de meilleures intentions. Les changements opérés par André Villas-Boas sont prometteurs, notamment Marley Aké, la tête de l'attaque marseillaise, mais ça ne suffit pas. Les Stéphanois sont vraiment bien regroupés, c'est efficace en défense. On voit encore avec ce centre bien intercepté par Jesse Moulin. Ça ne veut pas pour les Marseillais. 72e minute de jeu et ces Stéphanois qui sont tout proches d'un exploit. On rappelle que ça fait 41 ans que les Verts ne l'ont plus emporté ici au Vélodrome.
Merci Stéphane Frangy en direct du stade Vélodrome pour Europe 1. On vous retrouvera, vous deux, dans le flash à 23h. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous surtout?
Écoutez, comme d'habitude, moi, il est 22h30 et je suis heureux dès que je m'assois dans ce siège, vous savez.
On ouvre donc la libre antenne et pour témoigner, 39-21.
Exactement. À tout à l'heure pour le flash à 23h.